Cher frère, chère sœur, il peut faire du bien de s'arrêter un instant pour tourner le regard vers une réalité qui semble passée depuis longtemps, mais qui est peut-être plus présente qu'on ne le pense au premier abord. Faisant cela, nous suivons certainement le conseil donné par Ben Sirac le Sage dans la première lecture. Considérez les générations passées. Non pas pour nous laisser gagner par une sorte de nostalgie stérile, mais plutôt pour essayer de discerner en quoi et comment ceux qui ont vécu il y a longtemps ont tourné eux-mêmes le regard en avant, d'une certaine façon même en notre direction, posant peut-être déjà un regard d'espérance sur nous auquel ils espéraient pouvoir léguer quelque chose de précieux et de durable. Un trésor spirituel riche d'expérience, riche de sagesse réelle qui se communique non pas à travers les livres, mais à travers une vie concrète et contribue ainsi à faire grandir des communions fraternelles qui ne déçoivent pas le cœur, mais le nourrissent d'une sève qui a promesse d'éternité. Une deuxième réflexion. En se plaçant devant un très grand et très beau tableau de haute perfection, on est vite amené à se décider ou bien de le contempler et admirer longuement en silence pour essayer de le placer en quelque sorte dans notre cœur et notre esprit, ou bien d'essayer d'évoquer tel ou tel trait, tel ou tel aspect, en se limitant incontournablement à une parole très pauvre, toujours partielle et infiniment au-dessous de la réalité. Ainsi en va-t-il quand on contemple les trois saints que nous célébrons aujourd'hui en une seule solennité. Robert Alberic et Étienne Harding, fondateurs en 1098, et successivement abbé d'un nouveau monastère sitôt. En l'an 1220 de notre ère, Odon II, abbé du monastère bénédictin de Molesme, adresse au pape Honorius III la demande de canoniser Robert, fondateur et premier abbé du dit monastère. Au cours de l'automne de la même année, Odon II se tourne avec confiance vers le chapitre général des abbés cisterciens réunis à Cîteaux pour les inviter à soutenir sa supplique. Et de fait, non seulement les abbés cisterciens l'exaucent en se joignant à sa démarche, mais aussi le pape Honorius exauce-t-il la demande exprimée simultanément par la voix venant de Molesme et celle venant de Cîteaux. De sorte qu'en 1222, Robert devient, grâce à une démarche unanime des moines noirs et des moines blancs, Saint Robert de Molesme. Unanimité bien louable et entièrement justifiée, car aussi bien Molesme que Citeaux doivent leur existence à Saint Robert. Donc, Robert, père de deux monastères de type très différent. D'une part, père d'un monastère, je dirais de type ancien, fondé par lui en 1075, certes déjà dans la mouvance de réforme ecclésiale de l'époque, la réforme grégorienne, mais vivant encore un monachisme un peu encombré au plan liturgique, par exemple, par de nombreuses coutumes surajoutées à la règle bénédictine et, au plan économique, par de trop nombreuses donations attirées par sa bonne réputation elle-même. D'autre part, Robert est ce père qui prépare vraiment du neuf, à savoir la naissance de ce nouveau monastère. Les premiers textes parlent de Novum Monasterium, c'est-à-dire Citeaux. Ce nouveau monastère qui s'affranchira dès ses débuts de tous ceux qu'il aurait pu empêcher de suivre un désir nouveau. Quel désir? Un désir nullement né en un seul jour, mais grandissant au fil des années, à travers plusieurs expériences monastiques. Désir qui avait germé et grandi d'abord dans le cœur de Robert, grandit dans ce cœur qui, malgré ses presque 70 ans, savait encore se communiquer et partager avec ses frères, comme en témoigne discrètement un des textes les plus anciens cisterciens, l'Exode de Citeaux. Ne craignant donc pas les échanges fraternels qui rendait possible de voir, de réfléchir, de discerner, d'approfondir ensemble, de sorte que le désir en question, pour l'époque bien audacieux, et qui semble avoir poussé Robert sans cesse en avant, se découvrait de plus en plus présent non seulement dans son cœur d'abbé, mais également dans le cœur de plusieurs de ses frères et fils. Les textes parlent de 21 frères, dont Alberic et Étienne, si proches de Robert et qui lui succéderont aussitôt. Au point que ceux qui avaient mûri dans le cœur de plusieurs pouvait engendrer une décision unique, prise ensemble et mise en exécution d'un commun accord. Mise en œuvre qui semble avoir été portée, animée, comme d'une seule énergie. Qui d'autre pouvait être à l'origine de cette communion grandissante, sinon l'esprit de celui qui est communion, l'esprit de communion, l'esprit du Père et du Fils. Mais encore une fois, quel désir était ici si puissamment à l'œuvre. Rien d'autre que le désir de retrouver et de pouvoir vivre une vie monastique authentique, se nourrissant aux sources authentiques de la vie monastique, c'est-à-dire se nourrissant essentiellement de la Bible, étudiée à la lumière des pères de l'Église, méditer, prier, chanter, et rayonnant à travers une vie fraternelle guidée par la règle de Saint Benoît, cette règle qui, à regarder de près, ne veut enseigner rien d'autre que le chemin vers cette charité qui est seule digne d'être maîtresse du cœur humain. Ce sera le grand mérite des saints abbés Albéric et Étienne, successeurs de saint Robert à Cîteaux, d'assurer les bases de l'avenir, obtenant la reconnaissance officielle du nouveau monastère et s'appliquant avec beaucoup de labeur, comme l'atteste saint Étienne, à une révision complète des livres liturgiques, y compris la Bible. Et bien sûr, mais le fait, et en ce 900e anniversaire amplement célébré et commenté, c'est à saint Étienne que nous devons l'œuvre, certes toute petite, très brève en pages, mais importantissime, que l'on nomme la charte de charité, fruit magnifique d'une inspiration ayant germé déjà à Molèmes dans le cœur de Robert, mais parvenant maintenant à maturité, rendant possible aussi bien l'autonomie des monastères de la nouvelle famille monastique que leur union dans la charité. Cette charité versée par l'Esprit Saint dans, déversée par l'Esprit Saint dans le cœur, et qui toujours aspire à créer des demeures, des maisons de communion.